Vous êtes branchés sur la fréquence 9¾.
Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9¾. Je suis Jérémy.
Et je suis Marina.
Ça fait déjà quelques temps qu'on a entamé notre lecture de La Coupe de Feu et je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ferait plaisir de retrouver Poudlard un peu quand même.
Et c'est ce qu'on s'apprête à faire dans ce chapitre 11, car comme son titre l'indique, on va embarquer à bord du Poudlard Express pour enfin retrouver notre école préférée dans la nature écossaise.
On va donc traverser le Royaume-Uni en train et pour ce voyage, on va partager notre compartiment avec un invité qu'on est ravi de recevoir sur cet épisode. Pour le présenter, il a deux grandes qualités. Il est fan d'Harry Potter, ça déjà c'est validé, mais en plus il est bien plus drôle que nous. On est ravi de recevoir Vincent Coche. Salut Vincent, comment ça va ?
Ça va très bien et vous deux ?
Bah ouais, ça va, merci. Est-ce qu'on explique un peu le contexte de notre rencontre ? Vas-y Marina, je suis sûre que tu as envie de raconter aux auditeurs. Ouais. Comment on a rencontré Vincent Coche ?
On a été voir le spectacle de Thomas Dozer et Vincent Coche est la première partie de Thomas.
Et oui !
Et on a eu l'occasion de se rencontrer vite fait en coulisses. Et c'est comme ça qu'on a appris que tu étais un grand fan d'Harry Potter. Et qu'en plus de ça, tu as fait l'Harry Potter Comedy Night ! Un
c'est
spectacle
ça, ouais.
Avec Jojo Bernard et un magicien qui se nomme Yanis. Un spectacle qui dure plus d'une heure sur le thème d'Harry Potter et c'est assez fou.
Ouais, bah, on s'est beaucoup amusé à le faire en tout cas. Vraiment, c'est une sorte de plateau de comédie où on se succède l'un et l'autre et on essaye de faire des blagues vraiment full concentrées sur Harry Potter, quoi. Donc l'exercice était compliqué parce que c'est des blagues qui n'ont pas été testées, etc. Mais franchement, on s'est trop amusé et puis on s'est retrouvé avec un public qui a vraiment joué le jeu, qui est venu en cosplay. Tout le monde avait, franchement, c'était genre super bien, vraiment. Même le bar avait joué le jeu en servant de la bière au beurre, etc.
Ah,
vraiment,
trop bien.
Franchement, c'était une pure soirée. Il reste ça de cette soirée, de cette petite captation. Mais c'était vraiment bien. C'était vraiment, on s'est bien amusé à refaire.
On s'est dit, faut forcément l'inviter dans notre podcast.
Bah oui, forcément, surtout qu'on avait reçu Thomas déjà, bien avant le spectacle, je crois.
Puis un spectacle d'humour que sur Harry Potter, c'est le bonheur, quoi. C'est
ouais,
le bonheur.
Ouais.
Alors, on doit faire un petit avertissement. Les parents qui veulent mettre leur enfant devant le spectacle, c'est peut-être pas à mettre devant tous les yeux, enfin les oreilles surtout. Voilà, ça pour un public quand même assez adulte.
Ouais, donc, ça reste, avec les codes du stand-up, en tout cas, en ce qui me concerne ma partie, c'est vraiment, on était devant, le spectacle est globalement était déconseillé au moins de 12 ans, et après, c'est, il faut savoir, quoi. C'est grivois, quelquefois.
Et comme tu l'as précisé, Vincent, du coup, il y a une captation qui est disponible sur la chaîne de Jojo Bernard. Donc, c'est la capta intégrale du spectacle. Donc, on mettra ça en description si vous voulez voir. Et puis, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. On a ouvert une page Patreon. Et donc, on fera un after show. Avec Vincent, qui sera disponible pour les Patreons, où on va parler un peu plus en détail du coup de ton spectacle, et puis peut-être de façon plus générale sur comment faire rire avec Harry Potter, ou l'humour dans Harry Potter, enfin voilà. Et on diffusera plusieurs extraits, mais justement pour prendre un petit peu la couleur, on voulait balancer un premier extrait pour voir un petit peu, la couleur de ce que t'as fait comme sketch dans ce spectacle. On a choisi un premier extrait, et c'est là où on voit à quel point t'es quand même un fan, parce que tu dis dans cet extrait, on écoute ça, que t'as lu au moins 8 fois Harry Potter.
J'aime tellement Harry Potter, je me suis offert l'édition anglaise, tu vois, pour lire les vrais mots de J.K. Rowling. Rien compris, je parle pas anglais. C'est con. Non, franchement, je crois que j'ai lu au moins, et je dis pas ça pour me la taper, je trouve ça même un peu nul, tu vois, mais j'ai lu au moins 8 fois les 7 tomes. Tellement j'aime Harry Potter, vraiment. Pourtant, j'avais compris dès la première lecture, c'est ça qu'il faut se dire, je suis pas totalement con. Tu vois, mais chaque lecture, je sais pas si vous avez lu plusieurs fois Harry Potter, mais chaque lecture est différente. Tu vois, moi, la première fois, quand Albus Dumbledore meurt, putain, j'ai été triste. La deuxième fois, quand Albus Dumbledore meurt, j'ai trouvé ça trop bien écrit. La troisième fois, j'ai dit, mais il est trop con, Dumbledore, ça fait 3 fois qu'il se fait avoir. Le gars, il apprend jamais, quoi.
Est-ce que t'as vraiment lu 8 fois Harry Potter ou c'était pour le sketch, Vincent ?
Franchement, c'est prudent de dire 8 fois, probablement plus, ouais.
Peut-être même plus, ok. Donc vous voyez, calé.
Ouais, j'ai découvert Harry Potter, c'est mes premières lectures, finalement, et... Et en vrai, comme première lecture, donc c'était incroyable, vraiment. Et du coup, mais pour faire le passer à une autre à une autre saga ou d'autres livres, ça a été un peu compliqué, vraiment. Déjà, même le passage tome 4 d'Harry Potter a été compliqué. J'ai découvert ça très jeune. Je suis né en 89, j'ai découvert le tome 4 n'était pas encore sorti. On avait beaucoup de promotions sur le tome 4, mais le tome 4 n'était pas sorti, et donc j'ai découvert Harry Potter. Et la transition tome 4, où je trouve que ça gagne un peu en maturité, notamment la première apparition des Mangemorts, etc. Et je sais pas, j'ai eu un peu de mal déjà à aller plus loin. J'ai dû lire au moins déjà 3-4 fois le début du tome 4, quoi, pour me lancer, etc. Mais donc, ouais, fatalement, en essayant de changer de lecture, j'avais du mal. Donc, je suis retourné sur Harry Potter parce que j'aimais quand même lire. Et puis après, c'est une saga que je me lis, une fois tous les 2-3 ans, quoi. Ouais, facile. J'aime bien, ça se lit bien. Je lis beaucoup. Hein. Globalement, aujourd'hui, je suis un gros lecteur.
Et c'est un truc, je pense qu'on en parlera un peu plus en détail sur toi et ton rapport à Harry Potter et aussi à l'humour. Mais la particularité de ton sketch, c'est que tu parles surtout des livres. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai l'impression que ton premier contact avec Harry Potter, ta première référence, c'est les livres avant que ce soit les films. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des fans. Ouais. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait, la promotion des livres à travers notre podcast, évidemment. Moi, on est chapitre par chapitre. Et c'est ça aussi qui nous a touché chez toi. C'est ton rapport aux livres.
Ouais, c'est cool, mais en vrai, ouais, moi, je me rappelle, le tome 4, en tout cas dans mon collège, ça avait été vraiment très publicité, quoi. Il y avait vraiment, je vois l'affiche, et puis bien entendu l'affiche que j'ai connue, parce qu'il y a des nouvelles rééditions maintenant, le print est différent, mais moi, il y avait un dragon, c'était orange-rouge, et puis Sorcier, il était un peu stylé, hein. Moi, avoir Harry Potter, une baguette magique, c'est noir avec les extrémités blanches, quoi.
Oui.
Avant Harry Potter, tout le monde a un chapeau pointu un peu là, et puis là, non, on voit un gars, il y a une cicatrice sur la tête, des lunettes, mais il y a un peu beau gosse, quoi, tu vois.
c'est vrai que c'est la première couverture, la Coupe de Feu, où Harry était assez stylé, quoi.
Moi, il y avait un peu de temps, quoi. Et puis moi, j'avais toute une bande, moi je vais au CDI, c'est à cette époque-là, c'est pour lire le Guinness Book, tu sais.
À chercher les trucs les plus crades.
C'est ça, ouais, voilà, quoi. Et en fait, à un moment, il y a 4-5 jeunes qui font un concours un quiz, et le gagnant avait le droit à la sortie, le tome 4 quand il allait sortir, quoi.
Ouais.
Un truc comme
t'en parles dans ton sketch d'ailleurs.
Et je les ai trouvés beaux, les gars, ils étaient passionnants, ils étaient stylés et tout. Et moi je rentre, ma mère elle est fan de lecture, et je lui ai demandé, alors tu connais Harry Potter? Elle m'a dit ouais, et puis elle avait le tome 3 dans les mains, quoi.
Ouais.
Et donc du coup fatalement, ouais, je me suis mis à les lire, et puis enfin, finalement, une passion commune avec ma mère, quoi, tu vois, qui était tout le temps en train de lire, et puis moi, ça m'a jamais fasciné. Et là, vraiment, les étoiles se sont alignées, quoi.
Ah, c'est trop cool. Voilà, c'est un petit teasing de la discussion, je pense, qu'on aura après l'épisode sur ton spectacle.
Et juste pour ceux qui n'ont pas l'occasion après d'aller sur l'after show, est-ce que tu peux nous parler de ton spectacle que tu présentes à Lille pour le moment, c'est ça?
Ah ouais, à Lille, et puis ça y est, on commence à avoir d'autres dates. On va jouer à Rouen dans pas longtemps.
Ah.
On commence à avoir d'autres dates un peu partout. Donc ouais, ça s'appelle Comme un grand. Et en fait, grosso modo, c'est autobiographique, ça va de soi. Et c'est du stand-up, je pars, je fais des blagues. Et ça raconte quoi? Ça raconte globalement, parce que je suis père, je suis papa, je suis parent. Et je suis parent et je suis toujours le fils de mes parents. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Il y a ce truc un peu bizarre où je peux me faire encore engueuler et à la fois être paternel envers mes enfants. Donc il y a une sorte de truc chelou.
Il y a un petit paradoxe à gérer.
Ouais, voilà, il y a un petit truc comme ça où je me sens pas totalement adulte, et puis qu'est-ce que c'est un adulte, etc. Tu vois, et ça parle, et beaucoup d'amour également. Vraiment, ça parle, c'est assez vaste, mais c'est drôle.
On a pu avoir un aperçu dans ta première partie qui était géniale.
Là, tu m'aurais dit non, pas ouf. Bon, passons à la lecture.
Pas ouf, j'espère que t'as bossé depuis.
C'est ça.
J'espère que tu l'as rodé.
On mettra tout ça en description de toute façon, même si vous n'êtes pas Patreon, vous aurez toutes les infos sur les actualités de Vincent, qu'on aime beaucoup, qu'on est très content d'avoir ici. Ouais. On a fait un petit teasing de... et on a d'autres extraits pour le Patreon et tout.
On va mettre tout le spectacle pendant une heure.
On va commenter phrase par phrase.
On va se reposer.
Commentaire audio, tout ça.
Mais pour le moment, je crois qu'il est temps de tous retourner au terrier. Où, comme à chaque matin de départ, c'est un peu le joyeux bordel là-dedans qui se met en place pour arriver à l'heure à la gare de King's Cross.
Et on le sait, le train part à 11h précise, donc on ne perd pas de temps et on embarque.
Harry Potter et la Coupe de Feu. Chapitre 11. À bord du Poudlard Express.
On est de retour au terrier, c'est le petit matin et il est déjà l'heure pour Harry et les autres de se préparer pour le départ à King's Cross. King's Cross, pas facile à dire. En descendant prendre son petit déjeuner, Madame Weasley apparaît soudainement et elle appelle son mari en lui disant qu'il y a un message urgent du ministère pour lui. Arthur, à peine habillé, il dépasse d'un pas précipité dans l'escalier Harry, Ron, Fred et George. Lorsqu'ils arrivent dans la cuisine, Arthur est déjà penché devant la cheminée, en train de parler à la tête d'Amos Diggory qui se trouve dans le feu. Une vision un peu étrange quand même quand on vient de se lever. Là, petite réflexion quand même sur la poudre de cheminette, parce qu'on l'a vu dans le tome 2, la poudre de cheminette pour voyager, c'est ok quoi, même si c'est pas génial, mais c'est ok. Mais là quand même, genre, juste communiquer avec sa tête, parce que c'est la première fois qu'on voit ça, ça a pas l'air super.
Je pensais qu'on le voyait dans le tome 3. Mais non, c'est vrai, c'est la première fois qu'on le voit.
Je crois que c'est la première fois qu'on voit vraiment.
Si, de toute façon, Harry est surpris. Donc oui, c'est la première fois.
Oui, il se lève le matin. Mais en même temps, je le comprends. Tu viens de te lever le matin, tu vois une tête dans le feu.
Surtout la façon dont c'est représenté dans les films, je trouve que c'est assez flippant en plus. Cet aspect cendre et tout, c'est... Ouf.
Certes, il y a plusieurs moyens de communication. Comme IRL, quoi. Les SMS et tout ça, j'ai envie d'y croire. Et puis en plus, c'est ouf parce que dans le chapitre, il me semble qu'il mange.
Oui, en fait, on va le voir, mais oui.
Le goût, c'est un truc de ouf, quoi. Super technique, c'est incroyable. Mais c'est un peu creepy, j'avoue.
Parce que est-ce que c'est comme un FaceTime? Est-ce que tu peux refuser ton appel à la poudre de cheminette, enfin à la cheminée?
C'est ouf, ouais. Parce que
dans tous les cas, la tête apparaît et il y a des choses que. Voilà, quoi. Il y a des moments un peu...
je crois qu'on s'était posé la question, même au tome 2, il y a longtemps, c'est genre, est-ce que tu peux aller dans la cheminée, tu peux te retrouver dans la cheminée de n'importe quel autre sorcier, tu vois?
Ouais, de ouf. Ouais, c'est simplement savoir la tasse ou pas? Mais en fait, c'est ça qui serait intéressant, c'est que ça veut dire qu'il faudrait ça. En fait, la poudre cheminette, c'est accessible seulement si tu connais l'adresse et si tu y es convié. Donc, à partir du moment où il y a ce délire-là, ça justifie le fait que ça existe. Tu vois ce que je veux dire?
Mais est-ce qu'il faudrait être convié juste une fois pour te donner l'accès illimité?
Je pense que, tu sais, comme tu peux bloquer magiquement en tout cas accepter magiquement quelqu'un, et puis tu sais, à la manière de l'horloge du terrier, t'acceptes pas, tu sais, un truc un peu chelou comme ça, histoire
de... Ouais, je pense qu'il y a un truc comme ça. Ouais.
En fait, ça justifierait vraiment le fait qu'il y a 4-5 moyens de se déplacer super, super sympathiquement, quoi, super facilement, et qu'est-ce qui justifie le fait que ça existe? C'est qu'il y a des contraintes différentes. Et la contrainte, tu peux pas entrer si t'es pas la bienvenue dans la cheminée, t'y as pas accès, quoi, tout simplement.
Marina,
comme les vampires.
Tu parlais des films, Marina, sur l'aspect très cendre, un peu dégueu. Et justement, je crois que dans les films, ils ont pas trop... ils ont hésité sur la façon de le faire, parce que c'est comme ça dans la Coupe de Feu. Quand Harry, il parle à Sirius, sa tête, en fait, elle est dans les cendres. Et si je dis pas de bêtises, dans l'Ordre du Phénix, ils ont fait ça autrement, où la tête, elle apparaît dans les flammes, tu vois. Donc même dans les films, ils ont pas su comment vraiment interpréter, je crois, ce que J.K. Rowling elle avait en tête. Mais dans tous les cas, c'est un peu bizarre.
Les créateurs du film, quoi.
C'est fou, hein.
Je trouve vraiment que dans les films, ils ont su rendre des bagarres de baguettes magiques incroyablement stylées, quoi. Franchement, tu sais, moi je suis un peu dur avec les films. tout le temps, tu sais, je me dis, ah, le mieux, c'est les livres. Mais quand même, les films, ils ont amené une DA incroyable. Franchement, c'est beau quand même. Hein.
Et, c'est,
et puis, ça reste dans l'imaginaire de chacun, quoi.
C'est ça, ouais,
Harry Potter, on a tout de suite l'image des films, le décor des films. Ça a marché.
Bah, ils ont réussi, ils ont réussi à reproduire visuellement la magie des livres, quoi. Et ça, c'était le pari des films. Et c'était surtout le pari du premier film, je pense, parce que dans la direction artistique, il y a tellement de choses qui ont été créées à partir du premier. Mais n'empêche que oui, je pense que la DA des films, c'est quelque chose de très réussi. Ouais. Je pense que c'est indéniable.
Même le délire de chacun sa baguette, elle est différente visuellement. Nous, on parle que de taille et de bois et de noyau, hein, en vrai, dans les bouquins. Mais là, ils ont ajouté, franchement, des couleurs, des graphismes, ça. Voilà, donc ils ont loupé simplement la tête dans la cheminée, quoi.
Bah, tu sais, par exemple, tu parles des baguettes, mais ça, c'est aussi le charme, je pense, des films. Il y a eu des réalisateurs différents qui se sont succédés, mais aussi la direction artistique, elle a su évoluer, en fait, parce que, par exemple, les baguettes, c'est à partir du 3 que chacun a sa baguette, alors que si tu regardes dans les deux premiers films, ils ont tous des bouts de bois un peu... Pareil, les uniformes et tout, ils les ont retravaillés. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont retravaillées.
Ils ont tous la baguette noire et blanche.
Avec le bout blanc.
On a tous eu dans le coffret de magie.
Ouais. Ça fait partie des charmes là. Bon, bah, ils ont annoncé une série qui allait réadapter les livres. Peut-être qu'en série, ils vont peut-être penser à long terme et que ça soit vraiment homogène. Même si moi, je trouve que c'est un charme des films.
Ça serait incroyable une série en vrai.
Ouais.
Bon,
ça a été confirmé. Ça sortira dans je sais pas combien d'années.
Il y a même
mais...
pas de scénariste.
Non. Ouais. Voilà. C'est les dernières nouvelles qu'on a eues. C'est le producteur David Eman, qui est producteur des films, qui a dit ouais, il est trop tôt. On a même pas encore de scénariste. Donc là, bon, on peut se brosser pour attendre une série.
Ouais, ça a été signé en termes de droits.
C'est ça. Les gros sous-sous ont été signés. Je pense que les budgets ont été plus ou moins décidés, mais on en est là pour le moment.
Okay.
Alors, pour revenir dans la cuisine des terriers, du terrier, parce qu'il n'y en a qu'un, celui des Weasley, Amos raconte à Arthur une histoire avec des moldus qui ont entendu des bruits étranges et qui ont appelé les chantes d'âmes. Donc, c'est important d'aller là-bas pour résoudre le problème avant que Rita Skeeter l'apprenne. Arthur prend note de ce qu'a fait cet individu qu'il nomme Maugrey Folloy. D'après Amos, Folloy a entendu quelqu'un approcher sa maison et ses poubelles ensorcelées ont donc réagi en lançant des ordures partout. Mais selon lui, connaissant la paranoïa de Folloy, il ne devait s'agir que d'un chat errant.
Mmh.
Alors, la blague des jantes d'âme, en fait, on parle des gendarmes. Je me suis demandé, c'est pas une blague dans Les Visiteurs, les jantes d'âme?
Non,
je sais pas. Ou alors...
Tu demandes à la spécialiste des visiteurs.
Bah oui, c'est pour ça que je me retourne vers toi. Les auditeurs peuvent pas le voir, mais je te regarde de façon insistante.
Ouais. C'est mon petit plaisir coupable. Je connais quasiment tout le film par cœur des visiteurs, le premier.
Je me demande si j'entends pas la voix de clavier qui dit les jantes d'âme. Non, non, c'est. Non, c'est ok,
non.
C'est mon headcanon visiteur. Ok. Mais bref, au vu du passif du personnage de Folloy, il vaut mieux le tirer de là, autrement il risque d'avoir de sacrés ennuis, d'autant que fort heureusement, jusqu'à présent, il n'y a eu aucun blessé. Il n'en faut pas plus pour que Arthur se précipite ensuite en dehors de la cuisine pour se préparer à partir. Amos, qui se trouve devant Molly, il s'excuse du dérangement, mais il précise que seul Arthur peut aider Folloy, surtout qu'il commence son nouveau travail aujourd'hui. Petit indice.
Mais du coup, on est d'accord que l'événement avec les gendarmes, la voisine et tout ça, c'est au moment où Folloy se fait remplacer par Croupton Junior.
Oui.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Marina redécouvre l'histoire.
Bah oui.
J'aime bien ces petits moments. Mais attends, oui, c'est bien ça qui se passe.
Mais non, mais je les relis chaque année quasiment. Oui. Et pourtant, chaque année, je les découvre. Et comme tu disais dans ton spectacle, dans ton sketch, Vincent, c'est qu'à chaque fois, tu as des ressentis différents, tu as des réactions différentes à chaque relecture, en fait.
Puis en vrai, c'est ce qu'on disait, je crois, dans le chapitre précédent et peut-être encore dans les autres. L'histoire de la Coupe de Feu est complexe quand même. Et t'as beau avoir lu les livres ou même les relire, comme le film est beaucoup plus simple, bah des fois t'es là en mode attends, bah oui ce passage là, oui c'est le moment où Barty Croupton Junior, parce que ça dans le film c'est même pas évoqué en fait.
C'est carrément éludé ouais. Mm-mm. Premier chagrin d'ailleurs le film, hein. Vraiment c'est le premier chagrin d'adaptation.
Ouais.
Tu vois, moi, le 1, franchement, le 1, je l'ai kiffé de ouf. Le 1, je l'ai kiffé de ouf. Le 2, je l'ai kiffé de ouf. Et le 3, un peu moins, mais parce que ça y est, on commence à sortir justement. On commence à enlever les capes et mettre des pulls à capuche. Mmh. Mais typiquement, j'étais dans cet âge-là où je commençais à trouver Hermione très mignonne. J'avais le même âge, hein, je rassure tout le monde. Et ouais, tu vois. Donc ça va, ça m'a plu encore. J'étais... Et puis en plus, vraiment, le tome 3, ça a été très longtemps mon tome préféré, comme beaucoup de monde, parce qu'il y a un loup-garou, Lupin, il est incroyable, j'adore l'acteur en plus. Donc tout est trop bien dans le tome 3. Et le tome 4, c'est vraiment le premier chagrin. C'est la première fois où j'ai dit « Waouh !» Là, ils ont vraiment pas bien travaillé. J'étais vraiment pas content. Aujourd'hui, je suis sûr, je le regarde, je le trouverai bien. Mais...
Et on le dit souvent, ça. Enfin, c'est vrai que depuis qu'on a commencé le tome 4, ça revient souvent parce qu'on parle tout le temps de l'adaptation forcément au cinéma. Et c'est vrai que c'est un peu bâclé en termes d'adaptation. Après, moi, c'est un film que j'aime bien parce que j'aime tous les films. Et surtout qu'il y a de la nostalgie aujourd'hui. Il y a beaucoup de nostalgie autour du film. C'est un peu le réel Osef, je trouve, de malheureusement sur la coupe de feu. Et puis ouais, je sais pas pourquoi vraiment l'adaptation ça a mal été fait. Ils ont coupé des trucs, c'est normal de couper, mais ça se voit tellement, en fait, toute une question de rendre ça fluide. C'est pas subtil.
En vrai, le tome 4, je l'ai lu plein de fois. En fait, le temps d'arriver au tome 5, on a attendu ultra longtemps, quoi. Et les films sont sortis, donc en fait, je suis rentré dans une méta parce que moi, le tome 1, tome 2, tome 3, je les ai lus. J'avais pas vu encore le film, le premier Harry Potter.
Ouais, c'est intéressant, ça.
Donc, du coup, moi, je me suis pris, à jeun, les trois premiers tomes. Et après, j'ai découvert au film et j'étais agréablement surpris de redécouvrir les livres à travers l'œil de quelqu'un d'autre. Mais le tome 4, j'avais torché le livre et j'étais impatient, du coup, qu'il y a un film qui allait sortir. Tu sais, je voyais une scène, j'ai dit waouh, je suis pressé de la voir.
Tellement.
Notamment la Coupe du monde de Quidditch. Voilà, tu sais, il y avait plein de moments où j'étais pressé de voir cette scène. Et fatalement, donc c'est peut-être aussi ça en plus qui a fait vraiment que j'étais pas mal déçu.
J'ai des problèmes de mémoire de me rappeler vraiment mes lectures et tout. Par contre, je me retrouve complètement dans ce que tu dis parce qu'il y a un truc dont je me souviens, parce que moi, c'est pareil. J'ai découvert avec le premier film, mais je me suis enchaîné les quatre livres après qui étaient sortis. Et je me souviens particulièrement que la Coupe de Feu, j'étais là, j'étais tout excité. Je me suis dit, mais comment ils vont faire ça au cinéma? Ils vont pas faire la Coupe du monde de Quidditch. Ils l'ont pas fait. Mais ouais, non, je me souviens que j'étais hyper excité de me dire, et plus le temps approchait, plus les films sortaient, et vraiment j'avais la Coupe de Feu spécialement en tête parce que je trouvais ça vraiment épique, exceptionnel, en fait, comme livre. Ouais, un peu resté sur ma faim à l'époque, toujours aujourd'hui, mais c'est comme ça, hein, c'est comme ça.
Justement, je me permets de replacer une petite pub pour le podcast de Frédéric, du podcast En attendant ma lettre de Poudlard, que l'on a reçu il y a 2-3 épisodes de ça, je sais
le
plus.
Balado.
T'aimes bien dire ça. Et là, elle a sorti donc un épisode qu'elle a fait en deux parties parce que ça dure plus de 4 heures. Et en fait, avec deux invités, elle compare les films et enfin le quatrième livre avec le film. Et c'est assez cool parce qu'ils font vraiment chapitre par chapitre avec le film. Bon, bah finalement,
on a des choses à dire sur celui-là.
ouais, franchement, c'est hyper sympa. C'est hyper sympa à écouter. Et c'est comme ça que j'ai appris que du coup, notre podcast en québécois, ça se disait fréquence 9 et 3 quarts.
Fréquence 9 et 3 quarts, le balado québécois français.
Bah, c'est bien, tu leur feras ton accent.
Alors, pour revenir au chapitre, Molly, elle est très compréhensive par rapport à Mozigori. Et on parlait de ça tout à l'heure, elle lui offre même un petit toast qu'Amos met dans sa bouche volontiers avant de s'en aller à son tour. Donc apparemment, on peut manger. C'est un peu bizarre comme concept, mais c'est possible. À la suite de quoi, Arthur, désormais habillé d'une robe de sorcier et coiffé, il souhaite à tout le monde une bonne rentrée. Bill et Charlie entrent au même moment où leur père s'en va et Bill demande ce qui se passe avec Maugrey-Folloy. Molly lui répond et elle précise qu'Arthur a beaucoup d'estime pour lui malgré les rumeurs comme quoi il serait un peu cinglé, le Maugrey-Folloy. Alors j'aime bien quand Fred y précise que leur père n'est pas forcément une référence pour savoir si quelqu'un est sain d'esprit ou pas, sachant qu'il collectionne les prises de courant. j'aime bien sa réflexion sur son père. Et que Dumbledore non plus, niveau folie, c'est pas forcément une référence. Mais Voilà, j'aime bien ce petit clin d'œil de la part de
Maugrey Folloy, c'est quand même un niveau supérieur.
C'est ouf d'ailleurs que Maugrey Folloy, il s'est fait. Ça veut dire que il doit être costaud quand même, Croupton Junior, quand même.
Je pense que c'est sa folie qui le rend costaud aussi.
Non, mais il y a un truc de fou. On parle souvent d'ombrage, on parle souvent de Bellatrix Lestrange. Moi, je trouve qu'on parle pas assez de Croupton Junior quand même. Parce que le gars, dont déjà.
Il a été chez Maugrey Folloy. Hein,
il a bolossé Maugrey Folloy, mais surtout, il a réussi à se faire passer pour lui pendant toute une année sans que personne ne s'en rende compte. Et...
Mais s'expliquer comment il a réussi à le neutraliser ou pas?
Non.
Que c'est un ancien aurore quand même, Folloy.
C'est ça qui est ouf. En fait, c'est moi, à la lecture du chapitre, parce que c'est loin finalement. À la lecture du chapitre, je dis, il y a bolos ce Maugrey Folloy, quoi. Peut-être pendant l'interrogatoire, c'est vrai qu'il en refait mention et peut-être qu'il a un truc un peu plus malin et qu'il est pas parti vraiment mano à mano en toquant chez lui combattre les poubelles magiques et Maugrey Folloy. Ça me semble vraiment très très costaud. Mais
Après, on le voit malheureusement, Maugrey Folloy meurt dans les reliques de la mort à la bataille des Sept Potters. Spoiler alert. Mais la preuve qu'il est pas infaillible en fait, c'est-à-dire qu'il a beau Après, je le vois un peu comme un aurore cassé quand même, Maugrey Folloy. C'est-à-dire que ça a été le plus grand aurore en son temps, mais son temps est un peu passé quand même. Et il reste puissant, mais ça reste surtout un vieux parano, je trouve.
Je pense que en fait, dans tous les cas, moi, je pense que tu peux être extrêmement puissant et puis mourir d'un Avada Kedavra dans le dos.
Ah oui, bah par contre,
c'est ça que ça raconte.
Oui, oui. T'as beau être le plus grand,
voilà, parce que il est quand même en train de protéger un faux Harry quand il est là. Je trouve que c'est même symboliquement, c'est incroyable qu'en fait il meurt lorsque Maugrey Folloy et Lupin. C'est bien plus tard dans l'histoire, mais quand Lupin meurt, on te dit écoute, personne n'est à l'abri. Fred, encore pire, mais c'est surtout ça arrive à Lupin, je trouve. Lupin, on te dit. Ouais. T'as vu, il est mort, quoi, lorsque tu l'aimais bien, hein, tu vois. Donc, l'aimer ne sauve pas et ne protège pas un personnage. Et l'expérimentation et l'expérience et tout le background qu'on t'a fait, toute la légende qu'on a créée d'un personnage, te le sauve pas non plus. Et moi, je trouve que ces deux paramètres ont fait que, chaque page, on avait peur qu'il y a quelqu'un qui meurt, quoi.
C'est ça.
Moi, je trouve d'avoir détruit Maugrey Folloy et Lupin, c'était le combo parfait pour être vraiment en insécurité totale pendant la bataille finale, quoi. Je vois pas qui est plus
si Dumbledore
mais Dumbledore il est mort il y a deux tomes, tu vois.
Ouais, donc, c'est ça. En fait je pense que la mort de Maugrey Folloy elle arrive à point parce que certes Dumbledore est mort dans le tome d'avant, mais les reliques de la mort commencent et c'est là pour pas te faire oublier que les personnages vont être en danger pendant tout le dernier tome. Elle fait tuer celui-là qu'on pense invincible en fait. Et ça c'est très fort.
Ouais. C'est incroyable quoi. Et puis après derrière, j'adore Harry Potter.
Non c'est vrai. Attends, on va diffuser un extrait où tu dis que tu as lu 8 fois Harry Potter.
C'est ça. Donc il doit être vraiment costaud.
Ouais.
Croupton.
D'ailleurs, Charlie explique ensuite que Maugrey était un grand aurore en son temps, c'est ce qu'on a dit, et qu'il a emprisonné beaucoup de personnes à Azkaban, et aujourd'hui, il a viré un peu parano à cause de cette fée autant d'ennemis. En vrai, je comprends, tu vois, genre quand vraiment, si t'as la moitié de la prison qui est là-bas à cause de toi, je comprends qu'il ait viré un peu chelou.
Et puis en plus ça doit être quand tu mets autant de gars en prison, c'est que t'as passé beaucoup de temps avec ces gens-là. Je pense que tu perds un peu foi au bout d'un moment.
Ouais.
Vous aimeriez avoir son miroir à ennemis là pour détecter si t'as des ennemis proches de toi?
La parano. Non, je pourrais pas.
C'est un truc de parano aussi.
Et en plus tu découvres des ennemis que tu ne soupçonnais pas.
Ouais, mais justement, c'est bien de. Je pense que l'ignorance est une vertu en vrai, des fois. Pas savoir que t'as des traîtres chez toi, c'est bien.
J'aimerais pas. Mais c'est un peu comme le strutoscope, quoi. C'est un peu le même principe.
Est-ce que c'est fiable, ces trucs? Est-ce que c'est fait que pour lui? On en reparlera après dans les prochains chapitres. Mais est-ce que c'est des petits gadgets exprès que lui a construit ou c'est vendu dans le commerce?
Le miroir, je sais pas, mais le strutoscope, je crois que c'est vendu dans le commerce, quoi.
Est-ce que ça enlève pas un peu de la fiabilité si tout le monde a ça? Parce que ce struthoscope, c'est quoi déjà?
Bah en fait ça c'est un artefact et ça fait du bruit si quelqu'un qui enfin un traite un ennemi quoi est proche de toi quoi.
Ça rappelle franchement un rappel tout quoi, tu vois, c'est ça marche probablement magiquement un peu comme ça quoi.
Version parano.
Rappelle tout quand même le truc, l'artefact magique le plus inutile du monde, parce que le truc te dit t'as oublié quelque chose, mais t'aides pas du tout, te dit pas du tout ce que t'as oublié.
Après, je vois typiquement bien Maugré Folleuil acheter des acheter du matériel magique un peu bidon, mais moi
sur
je le vois bien. Sa parano lui crée, c'est peut-être bidon, mais au moins il y a c'est fait quoi. Ouais, je sais pas. Oui, c'est pour ça que je viens d'y penser, mais Barty Croupton, il est trop fort. C'est Croupton Junior, c'est parce que c'est le docteur aussi.
On en reparlera dans les prochains chapitres, mais ce qui est fou, c'est que c'est un mange-mort complètement taré, Croupton Junior, et pourtant, il a réussi à incarner Maugré Folleuil, il a aussi réussi à l'incarner dans toute son humanité, en fait. Parce qu'il y a des passages où effectivement, Maugré Folleuil, il est bourru, il enseigne les sortilèges impardonnables et compagnie, mais il sait avoir le bon mot, être sensible envers les élèves quand il faut. Et tu dis, et en fait, c'est un mange-mort qui joue la comédie depuis le départ. Enfin bref, on en reparlera, mais c'est quand même le gros goat des mange-morts.
Masterclass.
Bill et Charlie décident d'accompagner la joyeuse troupe jusqu'à la gare de King's Cross, mais Percy explique qu'il doit malheureusement aller travailler. George lui répond qu'un jour, peut-être, son boss finira par savoir comment il s'appelle. Ça fait mal. Plus un pour George. Petit percute, là. Impossible de commander des voitures du ministère. Alors, Molly est obligée de se rendre au bureau de poste du village et d'appeler 3 taxis moldus qui attendent bientôt sous la pluie devant le terrier. Je me dis quand même, elle a du courage, Molly, en tant que sorcière. Elle a dû aller au bureau de poste moldu, utiliser un téléphone, alors que les sorciers savent pas utiliser le téléphone. Un peu la galère, ce plan. Et ça montre aussi à quel point c'est reculé là où ils habitent. L'outrie Sainte-Chasse-Poule. Ouais, ça a l'air quand même d'être la campagne profonde, quoi.
De ouf.
D'ailleurs, ils habitent un terrier, donc je pense que ça en dit long.
Ça en dit long, ouais.
Et autant dire que les chauffeurs moldus, ils sont pas super ravis de charger leur voiture avec des caches de hibou.
C'est l'incohérence du bouquin. S'il y en a une, c'est celle-là. Vraiment. Parce qu'à un moment, il y a même le chat qui griffe un taxi.
Ouais.
Moi, une fois, j'étais en short, un Uber Eats m'a refusé. Mais dis donc, tu rentres pas chez moi en short.
Ça, c'est scandaleux, par contre. Il y a vraiment.
Non, c'est une vanne.
Team premier degré, je suis là.
Il n'y a pas de problème.
Tu sais qu'il est humoriste, il fait du
stand-up. Ouais, je sais.
Oh, t'as dû tellement attendre vraiment ta lettre, c'est sûr. Premier degré.
Non, mais moi, dans Harry Potter, je prends tout premier degré, tout existe.
J'espère que t'as pas pris le spectacle tout premier degré, parce que...
si, pour moi, Vincent, c'est un sorcier. surtout, le pire, c'est que j'ai pris tout le sketch de Joe Bernard premier degré. là, c'est plus grave encore. D'autant que, oui, dans le taxi moldu, Coxigru, j'ai dit Coxigru encore, non, j'ai essayé de dire Coxigru. Coxigru piaffe dans tous les sens, sans compter patte en rond, comme tu l'as dit, Vincent, qui est sous la panique. Le chat, il donne des coups de griffe à tout le monde. Ouais, il donne des coups de griffe au moment où il y a les pétards du docteur Flibus qui explosent dans tous les sens, dans la valise de Fred. Enfin, c'est le gros bordel dans le taxi.
La nuisance.
Ouais. Donc, mais a priori, il faut accepter l'idée. Mais les taxis moldus, ils ont pas annulé la course. Ils sont quand même retrouvés à King's Cross à l'heure avec leur bagage, ce qui est plutôt pas mal. C'est d'ailleurs Harry, Ron et Hermione qui passent la barrière magique en premier, parce que il faut dire qu'ils sont pas discrets avec leurs affaires, donc il vaut mieux qu'ils se barrent vite fait de la gare moldue. Et là, j'ai noté quand même un truc. Il est dit que pour passer la barrière magique, Harry, Ron et Hermione, ils font semblant de bavarder en se tenant contre la barrière, puis ils glissent à l'intérieur discrètement. Et là, vraiment, mais je pense que c'est un truc des films encore. Je me suis dit, mais moi, je pensais qu'il fallait courir, en fait. Enfin, il fallait foncer dedans. Et en fait,
dans le tome 1, Molly dit à Harry, cours, ça t'aidera.
Oui.
Voilà, mais sinon,
c'est
pas
logiquement en fait. Ouais.
Et cours pour te donner de la force, parce que c'est ultra chelou de passer à travers un mur, quoi.
Mais c'est encore plus flippant de courir contre un mur, parce que si c'est pas vrai, tu te fais vachement mal.
Ouais, bah, tu fermes les yeux, t'apprends de moi, quoi. Ouais, ouais. Non, mais oui, si c'est pas vrai, bah, c'est une superbe farce, hein. Faut...
Ouais. Mais oui, là.
Mais ouais, mais là, encore une fois, team premier degré, moi, je le vois courir. Je vois courir contre la barrière, je me dis, bah, il faut courir. Mais non, 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 en fait, on peut se la jouer comme on veut.
Sinon, tu passes pas.
Le trio entre ensuite à bord du Poudlard Express. Titre du chapitre, t'as vu. Ils déposent leur bagage dans un compartiment inoccupé, puis ils redescendent sur le quai pour dire au revoir au reste de la famille.
Avec un soupçon de mystère, Charlie dit à Ginny qu'ils se reverront plus vite que prévu. Wink, wink. Mm-hmm. Bill ajoute même qu'il aimerait bien être à Poudlard cette année et qu'il essaierait même de prendre du temps pour venir voir ça. Alors évidemment, ça éveille la curiosité chez nos jeunes sorciers. Donc Ron demande à Bill qu'est-ce qu'il veut venir voir à Poudlard. Mais le sifflet du Poudlard Express se fait entendre et Madame Weasley les pousse dans le wagon. Alors Hermione profite des derniers instants pour remercier Madame Weasley de son hospitalité. Cette dernière répond que c'est avec plaisir et qu'elle les aurait bien invités à Noël également, mais qu'ils auront sûrement envie de rester à Poudlard avec tout ça. Tout ce horrible mystère autour de l'événement de Poudlard agace Ron qui veut en découdre, mais sa mère lui répond qu'ils le sauront ce soir en espérant qu'ils ont modifié les règles. Et à ce moment-là, je suis autant agacée que Ron, en fait, parce que j'imagine en fond le train qui se met en route, donc le bruit, le brouhaha des familles qui se disent au revoir, et tout ça, toute ta famille te fait un mystère sur un événement à ton école. T'as envie de savoir et c'est énervant tout ce teasing en fait, soit tu dis rien, soit tu dis pas du tout. C'est le genre de situation qui m'énerve quand on dit les choses à moitié.
Ouais, quand on tease un truc.
Ah ouais, c'est super.
C'est vrai que toi,
énervant.
Ça t'arrive pas du tout de le faire.
Non.
Non, pas du tout toi.
Non, c'est toi.
T'es pas du genre à dire ah, faut que je te dise un truc. Non, 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 laisse tomber.
Non.
Si, tu le fais tout le temps. Tu le fais tout le temps. D'ailleurs, ça m'a pensé un peu à toi, ce passage.
Règlement de compte. Alors que Harry, Ron et Hermione retournent dans leur compartiment, Ron rumine toujours à propos du mystère de Poudlard. Mais Hermione le fait taire. La voix de Drago Malfoy leur parvient par la porte du compartiment ouverte. Dans le compartiment voisin, Drago raconte que son père voulait l'envoyer à Durmstrang, mais que sa mère ne voulait pas qu'il parte si loin pour étudier. Apparemment, Durmstrang est bien plus ouvert à la magie noire et plus fermé au niveau sang pur, filtrage, que Poudlard. Là-bas, il n'y a pas de cours de défense contre les forces du mal, mais des cours de magie noire, plutôt.
Là, Drago, il dit que Durmstrang, ça accueille pas les nés moldus. Mais là, je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est vrai que Durmstrang n'accueille pas les sorciers nés moldus? Parce que, ou alors c'est lui un peu qui délire.
Bah ouais, en fait là pour le coup ça peut être les deux versions sont bonnes, hein. Moi je trouve que l'information qui est ultra importante dans ça c'est que moi je viens d'apprendre que les sorts contre la merde les cours de lutte contre la magie là, je sais pas quoi.
Ouais.
On a compris. Ouais, contre les forces du mal, ouais.
Et ben c'est considéré comme ringard.
Ouais.
Moi, c'était juste le cours le plus badass, quoi. Et de savoir que, on fait pas ce cours un peu nul, je dis, waouh, c'est ouf. En fait, je trouve que, à travers Durmstrang, là, carrément, l'autrice, elle nous dit, Poudlard, c'est une bille dans l'océan de la magie, quoi.
C'est vraiment,
il y a plein de magies différentes, il y a plein d'écoles différentes. Elle nous l'a déjà call, les chapitres précédents. Mais là, encore plus, quoi. Encore plus, là, il y a des philosophies qui sont même carrément différentes d'établissement en établissement. C'est ultra passionnant.
C'est ça, c'est qu'à Poudlard, en fait, c'est un cours de défense contre les forces du mal. Mais mais en fait, Durmstrang, je pense que c'est un cours sur la magie noire, en fait, ou sur les forces du mal, mais pas directement sur la défense. En fait, t'enlèves défense et.
Mais ce qui est pas très malin de la part du directeur, parce que le directeur, c'est un ancien mange-mort.
Bah oui.
Et le mec qui bâtit sa réputation sur son amour de la magie noire, alors quand même, il a un background pas cool.
Ouais. Est-ce que c'est pas ça qui génère finalement les fantasmes de Malfoy, de Malfoy, Malfoy,
Malfoy,
tu vois? Est-ce que c'est pas ça, justement, plus que connaît un peu finalement les bails, il voit un peu c'est qui ce gars-là, il sait que c'est un grand méchant. Et puis là-bas, c'est dans le nord. Bah, tu sais, je sais pas, ça a une imagerie qui est un peu vénère et il y a du fantasme. Comme nous, à son âge, quand on avait 14, 15 ans, et ben on fantasmait le lycée plus loin ou le collège plus loin. Ou là-bas, franchement, ils appellent les pions par leur prénom, quoi. Tu sais, il y a ce genre de truc, quoi.
Non, moi, j'étais un vrai nerd. Moi, la seule école que je venais à, c'était Poudlard. Non, mais je pensais au Némoldu, parce que, en vrai, enfin, c'est les animaux fantastiques qui sont venus un peu remettre en perspective certains trucs par rapport au Némoldu. Parce que on a appris l'existence des Obscurus, le fait que Ariana, la sœur de Dumbledore, c'en était une aussi. En gros, si t'apprends pas aux jeunes sorciers à canaliser leur magie, ils peuvent devenir extrêmement dangereux. Donc en fait, je me dis, genre, si c'est vraiment la seule école ou une des rares écoles en Europe de l'Est, et vraiment que ça accueille pas les Némoldus, que deviennent les Némoldus d'Europe de l'Est, quoi? Est-ce que ça ne vient pas des Obscurus en puissance?
Ils vont dans d'autres écoles, non?
Ils vont dans d'autres écoles, ouais.
À Poudlard ou...
Ouais, ils peuvent aller à Poudlard et autres, ouais, carrément. Et puis, je pense que... je pense que rien qu'au Royaume-Uni, il n'y a pas que Poudlard. En tout cas, j'en doute.
Royaume-Uni, je crois que c'est la seule, hein. Après, il y a peut-être des...
Dans Pottermore, en tout cas, elle parle d'école par pays, par continent, mais pas vraiment.
Ah ouais, pays par continent, c'est vrai, de ouf.
Après, comment ça s'appelle les écoles privées avec des moyens d'éducation alternatifs?
Montessori?
Ouais, ça se trouve, il y a un Montessori magique anglais, une espèce d'alternative à Poudlard avec des frais d'inscription qui sont 10 fois plus élevés.
Ah non, en vrai, c'est intéressant, mais je pense que ça reste du fantasme. Et en vrai, aujourd'hui, tu sais, des gars comme Dumbledore, etc., même si c'est toujours un peu arriéré, hein, dans pas mal de concepts, même à Poudlard même, mais je pense que là, je veux dire, il doit y avoir une union de la sorcellerie où tout le monde doit se mettre en règle et que là, c'est juste Malfoy qui se tape des gros fantasmes.
Mmh. Ouais. Mmh. Je pense que les Serpentards, ils doivent se raconter leurs petites histoires... Il y a, comme tu dis, un petit fantasme autour de Dumbledore. Et puis,
ouais,
tu penses
c'est
que
tous
toujours,
des frustrés de Dumbledore.
L'herbe est toujours plus verte ailleurs, en fait. Mm-hmm. Hein.
C'est ça.
Hermione se lève afin de fermer la porte du compartiment, afin de faire taire l'horrible voix de Malfoy. Hermione est en colère. Elle aurait préféré qu'il aille à Dumbledore comme ça. Il ne l'aurait pas eu sur le dos depuis toutes ces années.
Pas faux.
Et du coup, j'ai pensé à une idée de fanfiction. À vos petits doigts. Que serait devenu Drago si ses parents l'avaient inscrit à Dumbledore?
Je suis sûr que ça existe.
Je pense.
Drago à Dumbledore.
Ouais.
Bah, il serait devenu mange-mort 1000 fois plus vite, non? Si ce qu'il fantasme est vrai, en fait.
Je sais pas.
Ouais. Je pense que la paternité, Lucius, tu vois, de voir son père toujours un peu vénère, un peu froid, et le fantasme que son père vénère, parce que les papas, en tout cas de notre génération, hein, c'est des Batman. C'est qu'on connaît que Batman, mais on sait pas c'est qui Bruce Wayne. Mm. Donc, lui, c'est pareil, tu vois. Il connaît que le mange-mort qui est son père et pas Lucius, finalement. Ouais. Donc, peut-être loin de son père, il aurait été moins matrixé. Mmh. Et peut-être que c'est plus loin de ses parents.
Mmh.
Tu vois ce que je veux dire? Si, encore une fois, Dumbledore, cette école-là, c'est que du fantasme. Mais en vrai, c'est une école comme toutes les écoles de sorcellerie.
Je pense. La preuve, c'est que là, dans ce tome-là, il y a des élèves de Dumbledore qui vont s'acclimater à Poudlard pendant toute une année. Alors certes, il n'y a pas des cours en commun ni rien, mais les écoles restent amies, en fait. La preuve, c'est que le tournoi des trois sorciers existe parce qu'il y a des relations amicales entre les écoles. Donc, j'arrive pas à imaginer que ça soit vraiment quelque chose de complètement différent et que ça soit hardcore à Dumbledore.
Ouais, mais surtout, la rivalité qui est créée, c'est par les directeurs et leur différence de point de vue, surtout, en fait. Ouais. Hein. C'est pas tant sur avec les étudiants.
De ouf.
Marie, en tout cas, lui, c'est pas ce qu'est Dumbledore. Hermione lui explique que c'est une école de magie qui a mauvaise réputation. D'après le guide des écoles de sorcellerie en Europe, elle accorde beaucoup d'importance à la magie noire. Sa localisation est même cachée, tout comme Beauxbatons. Ces écoles ont peur de la rivalité à tel point qu'elles cachent aux yeux du monde leur localisation pour préserver leurs secrets. Mais Ron est étonné, il est toujours à la ramasse. Il se demande comment on peut cacher des écoles. C'est comme si on voulait cacher Poudlard. S'il avait lu l'histoire de Poudlard, Ron saurait que Poudlard est effectivement caché. Si un moldu regarde le château, il ne verra qu'une vieille ruine et un panneau indiquant défense d'entrée, danger. Question. Est-ce que malgré le sortilège, les moldus peuvent faire de l'urbex ou de la chasse aux fantômes dans l'illusion de Poudlard? Peut-être qu'on a vu Poudlard dans une vidéo du Grand JD ou de QSTX.
Possible, possible.
Bonsoir, excusez-moi de vous déranger dans votre humble demeure.
Surtout que là, des PVE, des trucs, des phénomènes, tu dois en avoir.
C'est ouf, d'ailleurs, parce que là, c'est la première mention de Poudlard, justement, qui a une barrière qui repousse Moldu, etc.
Bah ouais, je pense.
J'ai l'impression qu'Hermione l'a déjà dit.
Ah ouais ?
J'ai l'impression qu'elle est agacée parce que je crois qu'elle l'a déjà dit. Okay. Peut-être dans le tome 1, mais à vérifier, je suis pas sûr.
C'est la grosse mise à jour de l'univers, ce chapitre-là, tu vois ? Parce que là, quand même, on a quand même plusieurs informations, genre... Il y a d'autres écoles depuis plusieurs chapitres, mais quand même, il y a d'autres écoles. Les écoles, on les trouve pas facilement parce que finalement, tu peux, voilà, ça repousse les moldus. On réimpose pas mal de trucs. Et puis même à la fin du chapitre, on le dira plus tard, mais ça recolle les chariots qui avancent tout seuls, quoi. Tu sais, j'ai l'impression que là, ça remet un peu l'univers en, ça reprend son univers en main.
Bah, c'est surtout que ça crédibilise Poudlard dans un monde de la magie qui est beaucoup plus large, en fait, qui est le monde entier, en fait. C'est-à-dire que le tome 4, c'est un peu ça. À la fois, c'est le pilier dans l'aventure. C'est là où, c'est le grand tournant de l'histoire. C'est le retour de Voldemort et tout. Donc, en gros, c'est là où l'histoire va devenir plus sombre. Mais c'est aussi là où l'univers se complexifie, parce que c'est pas juste l'histoire de Harry dans une école entre quatre murs. C'est en fait une micro-histoire, celle de Harry dans un monde de la magie qui est en fait énorme, en fait, et qui dépasse Harry. Et ça c'est hyper intéressant comment Poudlard est contextualisé, en fait, dans un univers qui est beaucoup plus grand que ça. Ouais, complètement. Ouais, je me suis toujours demandé un truc, c'est on fait mention, ça c'est peut-être la première fois par contre, on fait mention que Poudlard est incartable. C'est-à-dire que tu peux pas mettre Poudlard sur une carte, mais c'est tellement abstrait comme truc que j'arrive pas. Comment c'est possible?
C'est trop bien. Moi j'adore les concepts, ces concepts-là, c'est vraiment pile ou face. Tu l'acceptes pas là, c'est juste ça, mais c'est trop chelou comme
ça. C'est abstrait, comment ça marche?
Ouais.
Mais aussi Dumbstrong, du coup, qui est incartable. Mais je me demandais, le sortilège, donc il y a le sortilège repousse Moldu, mais il y a incartable aussi. Mmh. Est-ce qu'incartable, ça vaut pour les sorciers? Est-ce qu'il faut être convié à Poudlard pour savoir où ça se passe?
Ça, c'est intéressant. Est-ce que la magie, c'est pas juste un gars, tu sais, quand tu mets le post-stylo sur ta carte, il la bouge?
Mais ça se trouve, tu sais, la magie, des fois, c'est un peu comme ça, c'est un peu bricolage et tout. Ça se trouve, c'est ça, c'est que tu peux le... En fait, la carte, je sais pas, là, en fait, la carte, elle bouge ou...
Parce que, aussi, la question que je me pose, c'est qu'ils se disent qu'il y a tellement de rivalités qu'ils cachent leur localisation, les différentes écoles.
Ouais.
Mais de rivalité envers les autres écoles, mais pourquoi ils ont peur que, par exemple, Dumbledore sache où est Dumbstrong?
Après, c'est pas tant caché que ça, parce qu'on voit bien, Madame Maxime et Karkaroff, ils viennent à Poudlard.
Oui, mais c'est ça.
Oui,
je
comprends
pas. Puis pourquoi la rivalité, de quoi ils ont peur qu'il y ait des attentats, entre guillemets, dans leurs écoles? Enfin, pourquoi se cacher à ce point, en fait?
Ah, le monde de la magie aime le secret.
Je pense qu'ils vendent les tours. Tu sais, je pense que... De toute façon, tu sais, je crois que c'est dans le chapitre 9 de votre podcast, vous en parliez. Il y a un moment, par rapport aux tentes. Comment oui. Est-ce qu'il y a des tours, etc., de tente? Moi, je pense qu'en vrai, il y a des techniques, tu vois, comme n'importe quoi, mais comme un boulanger sait faire du pain, il y a des techniques qui sont plus ou moins élaborées. Tout le monde est capable de le faire, mais il faut l'apprendre, il faut savoir le faire, etc. Et ça, tu peux le monnayer, cette capacité de le faire. Tu vois ce que je veux dire? De connaître le tour, quoi. Je pense pas que... En fait, je pense que pour monter une tente ou construire un meuble, il suffit pas de faire construire un meuble illus et construire un meuble, tu vois. Faut déplacer la matière, faut les fixer entre elles, tu vois. En fait, c'est un ensemble de magie, quoi. Et je pense que chaque, tu vois, par exemple, nous, à Poudlard, je dis, ça c'est triste. à Poudlard, ils font de la défense contre les forces du mal. Bah, typiquement, c'est une spécialisation de potentiellement cette école-là, des tours, et les tours peuvent être secrets et propres.
En fait, ils cachent un peu leur savoir-faire.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Nos régions du talent version sorcier.
Et ouais, il y a toute une culture du secret dans le monde de la magie, parce que déjà, les sorciers doivent vivre en marge des moldus, et il y a quand même une énorme majorité de moldus dans le monde, donc en fait, c'est une espèce de petit microcosme comme ça qui doit vivre caché, et je pense qu'entre eux, les sorciers, ils ont aussi cette culture du secret, ouais. De Poudlard, bah voilà, on a notre fonctionnement, nos petits secrets, et on partage pas tout, en tout cas.
Ouais, voilà, tu te fais griller par les moldus, autant passer pour le seul et unique école du monde de sorcellerie, histoire de laisser les autres protégés. Dans tous les cas, tu peux pas divulguer l'endroit, etc. Quoi.
Ouais.
Je vais appeler Dumbledore tout à l'heure.
Ah, bah, si tu l'as dans ton répertoire, ouais, pourquoi pas.
Le répertoire avec
super
le
sympa, en fait. Super sympa.
Alors, malgré le fait qu'on ne peut pas localiser Dumbledore sur une carte, Hermione pense que l'école se situe dans le Grand Nord parce qu'ils ont des capes de fourrure. Alors, du coup, Ron, lui, s'imagine déjà pousser Drago en haut d'un glacis. Un accident est si vite arrivé. Alors que le train continue son voyage jusqu'à Poudlard, le temps devient de plus en plus sombre. Les amis des trois sorciers leur rendent visite. Les conversations tournent presque toujours autour du Quidditch, pour le plus grand malheur d'Hermione, qui finit par se plonger dans le livre des sorts et enchantements du niveau 4. Le pauvre Neville, lui, n'a pas participé à la Coupe du Monde parce que sa grand-mère n'a pas voulu acheter de ticket. Ron, alors, sort fièrement la figurine de Crum pour la montrer à Neville. Il lui raconte qu'il l'a vue de près parce qu'il était dans la loge officielle. Pour Ron, la première et dernière fois de ta vie, Weasley.
Ron la groupie, quoi.
Notre très cher Drago et Crabbe et Goyle viennent de s'inviter dans le compartiment d'Harry, Ron et Hermione. Décidément, il y a du monde. C'est the place to be. L'attention de Drago est portée sur la manche violette qui dépasse de la cage de Coxigrue. Ron tente d'empêcher Drago de prendre la robe, mais n'a pas été assez rapide. Drago déploie la robe et fait ce qu'il sait faire de mieux, se moquer des Weasley. Ron, qui a la même teinte que sa robe, arrive à lui arracher des mains. Drago se joint également au teasing du mystérieux événement à Poudlard et demande à Ron s'il a l'intention de s'inscrire pour donner un peu de gloire à sa famille et pouvoir gagner de l'argent pour s'acheter des vêtements convenables. Et demande à Harry s'il va s'inscrire également, parce qu'après tout, il ne perd pas une occasion de faire le malin.
À chaque fois que je dis ça, je fais « Ouah, l'insulte, Drago ouais, !»« Toi, tu perds pas une occasion de faire le malin !»
Oh
Tout ce spectacle rend Hermione de mauvaise humeur. Elle dit à Drago, soit il leur dit de quoi il parle, ou soit il s'en va. Et là, rien ne peut plus réjouir Drago sur le moment que le fait de savoir que Ron, Harry et Hermione ne savent pas ce qu'il va se passer à Poudlard. Pourtant, le père de Ron travaille au ministère, mais sûrement que son père a accès à des plus hauts représentants du ministère que le sien. Cornelius Fudge en a parlé à Lucius depuis bien longtemps. Et non, petit con, c'est juste que sa famille a gardé le secret. Il faut leur faire la surprise.
Je crois que c'est encore pire de se faire teaser par Drago, quoi. Mais il aime bien faire ça, il aime bien comment dire, sous-entendre qu'il sait mieux que toi. Ça revient souvent, ça, il le fait souvent à Harry, par exemple. C'est ouais, t'es pas au courant, ah bon, bah tu vas voir.
Ouais.
Insupportable.
Tu vas moins faire le malin.
Ah, tu fais le malin, Harry.
Sur ce, Drago, Crabbe et Gold partent du compartiment en se moquant. De colère, Ron ferme si fort la porte que la vitre se brise. Dans un ton plein de reproches, Hermione marmonne un réparo et la vitre se répare. Mais c'est fou quand même qu'elle a réussi à casser la vitre. Ron reste de mauvaise humeur jusqu'à l'arrivée à Poudlard et le temps ne va pas améliorer son humeur puisque les élèves sont accueillis par du tonnerre et une pluie torrentielle. Malgré le déluge, Harry réussit à saluer Hagrid.
On finit juste pour revenir à la robe de...
Ah,
je
pensais que tu allais avoir la même réflexion que moi avec le lac. Mais...
Ah non, tu en avais une sur le lac. Non, moi, juste pour revenir sur la robe de soirée de Ron. On en a un peu parlé au dernier chapitre, mais Il y a quand même un truc que dit Drago, je l'ai pas exactement en tête, mais il dit waouh, c'était à la mode oui. En 1890, un truc comme ça. Là, je me dis ouais, mais quand même le monde de la magie là, on est en 1994 et c'est pas forcément super différent, je pense, que d'il y a un siècle. Je veux dire, la vanne, elle est trop pourrie, tu vois, genre les gars, votre école, c'est dans un château quoi. Il y a des armures du Moyen Âge.
Ouais, mais après quand tu regardes, c'est quand ils essayent de s'habiller en moldu que c'est un peu excentrique et tout, mais quand tu regardes par exemple Lucius Malfoy, il s'habille très sobrement.
Ouais, mais tu penses qu'il y a 100 ans, les sorciers s'habillaient différemment? C'est ça, j'ai
dit. Je pense qu'ils avaient différentes modes, ils avaient la mode du disco.
Ouais, mais du coup, ils sont en avance sur les moldus. Ouais. En fait, j'ai l'impression que le monde de la magie, il est un peu figé dans le temps. Je le vois un peu comme ça. Il est un peu figé au Moyen-Âge, ils n'arrivent pas trop à sortir de ces années-là, tu vois. C'est pour ça que.
Mais c'est parce qu'il n'y a pas les. Je pense que aussi, c'est un rapport avec les avancées technologiques.
Ouais. Je pense que c'est pas nécessaire pour eux de se développer plus. Ils sont bien, là.
Ah non, ils sont bien. Mais bon, c'est juste la remarque de Drago, du coup, elle fait aucun sens, je trouve.
Ouais.
Mais comme souvent, les remarques qu'il fait, ça a pas de sens. Mais...
Oui, c'est un personnage un peu détestable. Hein.
Ouais. Et toi, sur le lac, c'était quoi?
Non, mais je me dis, c'est chaud quand même de les emmener par le lac alors qu'il pleut à torrents, il y a du tonnerre et tout, c'est hyper dangereux.
C'est la tradition, c'est comme ça, c'est chaque année.
Comme ça. Et d'ailleurs, ça fait écho au spectacle en description. Le lac.
Oui.
Il doit y avoir un petit digori qui se met.
Il fallait laisser découvrir les gens. Spoil pas.
Spoiler.
Ah.
Ouais, c'est protégé magiquement. Il y a toujours cette astuce-là.
Hein.
Oui.
Tais-toi, c'est magique en gros, c'est ça.
Voilà.
Il y a un dôme magique.
Des barques à retournables, et on n'en parle plus. Parce que même dans le lac, il y a un monstre marin, quoi, aussi.
Ouais.
C'est le Loch Ness.
Non, mais grâce à la magie, les élèves à Poulard ne sont jamais en danger, sauf quand Mimi Géniard et Digori meurent. Mais sinon, ils ne sont jamais en danger.
À chaque fin d'année...
À chaque fin d'année, il y a un petit mort, mais...
C'est dans la décharge qu'ont signé les parents.
Mais les stats restent bonnes, quoi, ça va.
On a plus de diplômés que de morts.
En tout cas, pour les quatrièmes années, les diligences les attendent pour les mener le long du chemin jusqu'au château.
Merci Marina pour ce chapitre à bord du Poudlard Express.
Merci.
Je sais pas pourquoi j'ai pris un semblant d'accent belge. C'est peut-être parce que j'ai Jojo Bernard encore, j'ai encore son sketch là. Elle tient Vincent dans la tête.
Mais il est pas belge.
Non, c'est plus ça. C'est un accent du schnorr.
Ouais, c'est un accent du nord.
Un peu grossier. Et merci Vincent, merci pour toutes tes remarques. On a diffusé un extrait en intro pour. On montrait que t'es à fond dans Harry Potter, mais il n'y avait pas besoin. Je pense que tu l'as démontré dans... Voilà. Quand t'as dit « nous » à Poulard.
Je suis débordé, là.
Écoutez les moldus. Moi, à Poulard, en tout cas...
Non, t'as basculé, là, t'es un sorcier.
T'as appris mon professeur. De potion.
Il est temps de sélectionner un personnage qui nous a particulièrement marqué, s'il y en a un, dans ce chapitre. Marina, si tu devais retenir
Moi, j'en ai pas vraiment un.
Ouais.
C'est le teasing qui m'a saoulé.
ça t'a énervé, là. Bill, Charlie, Molly, Drago, ça t'a saoulé.
Non, un personnage, Drago, parce que même s'il apparaît qu'une minute, quelques phrases, il a le don d'être énervant, en fait.
Tu perds pas une occasion de faire le malin. Et je prends cette voix-là, mais parce que vraiment, dans les livres audio, Energy Rodo, il le fait comme ça.
J'ai pas su aller plus loin, vraiment, parce que Hagrid est trop débile et son Malfoy est trop relou.
Il est très nasal comme ça.
En vrai, il le fait bien, hein, c'est décrit comme ça dans le livre. Mais c'est juste, moi, ça me fait chier.
Mais du coup, t'as pas eu l'occasion d'entendre Lupin en pizzaiolo, un peu
Lupin,
italien.
Lupin, c'est...
c'est vrai.
C'est Mario pizzaiolo.
Ah, trop bien, j'aurais su, j'aurais été jusque-là. Mais je n'ai pas le niveau de l'eau, c'est ouf, j'ai essayé, mais...
Ils sont un peu durs, ils sont un peu durs. Moi, je suis le premier à le dire. Mais après, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont un rapport vachement nostalgique parce qu'ils les ont écoutés quand ils étaient petits, et ça marche beaucoup plus sur eux. Mais quand tu découvres ça un peu sur le tard, c'est dur, c'est dur.
Ouais, ça tue un game, hein, la nostalgie, l'enfance et tout. Mais ouais, moi, je l'écoutais sur le tard, et je t'avoue que, je sais pas, livre audio... je suis pas fan du format, du concept livre audio. Je suis pas un grand fan, quoi. J'aime bien lire, quoi.
Ouais.
Et en vrai, il y a tellement de trucs à l'audio, que ça soit des podcasts, parce que je suis un grand féru de podcasts, mais et écouter de la musique, fatalement aussi. Livre audio, ça va pas parce que ça me demande une certaine concentration. Je veux dire, un podcast, je peux m'endormir en plein milieu et me réveiller, et dire ils en sont là. C'est, il y a pas de problème, quoi. Un livre, j'ai peur de passer à côté du nom de l'avocat et qui est le meurtrier de la fin, quoi.
Bah, en fait, moi, ça marche bien, par exemple, sur Harry Potter, parce que
tu connais par cœur.
Bah ouais, en fait, j'aime bien le mettre en fond. C'est pas grave si t'as pas tout, mais ça peut créer une ambiance sur des livres que tu connais déjà. Par contre, découvrir un livre par un livre audio, c'est vrai que moi, je le fais jamais, par exemple.
Et c'est peut-être un peu bête, mais j'ai tenté aussi d'écouter des livres audio. Et avec un livre que je ne connais pas, mon imaginaire, moi, marche moins bien, en fait.
Ah ouais, il est bridé.
J'ai du mal à créer le monde du livre, j'y arrive pas.
Après, tout dépend du narrateur aussi. Enfin, je le dis souvent sur Harry Potter. Vraiment, si vous êtes un peu à l'aise avec l'anglais, tentez le livre anglais. C'est le premier que je conseille, qui est lu par Stephen Fry, qui est un acteur extraordinaire. Et puis, l'américain, c'est Jim Dale. Et lui, il interprète les personnages, mais il arrive vraiment à transformer sa voix. C'est impressionnant. Après, on adhère ou on adhère pas. Mais par exemple, Stephen Fry, c'est exceptionnel, quand même, ce qu'il a réussi à faire sur Harry
Potter. Même si vous connaissez pas très bien l'anglais, c'est peut-être justement, si vous connaissez très bien Harry Potter, écouter en anglais, ça va probablement vous aider à comprendre mieux l'anglais.
Ouais.
Ça, c'est pour le coup, c'est une vraie bonne solution. Tu vois, franchement, je te jure, je vais le noter. Je vais écouter les audios en anglais.
Quand j'apprenais l'anglais, c'est vraiment un truc que j'ai fait. J'ai découvert le livre audio de Stephen Fry, mais je lisais quand même le livre en anglais. Et c'est un peu comme quand tu regardes un film ou une série en version originale, mais avec les sous-titres en anglais. En fait, ça te permet d'entendre, mais aussi de lire. Et en fait, tu associes en fait les mots à leur prononciation. Et je trouve que c'est un moyen extraordinaire de progresser dans une langue, que ce soit l'anglais ou autre, hein, d'ailleurs. Mais ouais. Et toi, Vincent, je sais pas si t'as un personnage, si tu devais sélectionner un personnage, je sais pas s'il y en a un qui te marque plus.
Je vais pas être très original, mais moi, je trouve que c'est Drago, encore une fois, parce que Drago, il tape fort. Tu vois, tout le monde est un peu nébuleux dans ce chapitre-là. On te dit bien plus, on te rappelle bien plus qu'est Poudlard, où est Poudlard. Franchement, il y a beaucoup de rêves, même. Le Poudlard Express, on en fait à peine mention, quoi. Il est même pas rouge dans ce chapitre-là, franchement. Il rentre dedans, c'est tout. Donc, c'est pas du tout mis en abîme. Et le seul, je trouve, qui est très, très marquant, c'est Malfoy, quoi. C'est Malfoy, où il débarque et il est très vite relou, il est très vite incisif, il est même un peu drôle, hein. Moqueur et méchant, hein. Mesquin, attention. Mais je trouve que, en fait, on est à Poudlard. Quand Malfoy débarque, on est de retour à Poudlard, tu vois. Et enfin, surtout au tome 4, hein, où ça met du temps à démarrer, quoi, le tome 4. Le tome 4, on est d'accord, avant le tournoi de Quidditch, il y a la maison des Gédusor.
Ouais. Ça commence comme ça.
Maison Gédusor, le tournoi des Quidditch. Tu vois, après tout le délire, vraiment, c'est long avant d'arriver à Poudlard.
Ouais. C'est vrai que c'est la première fois, en tout cas, que c'est long comme ça. Ouais.
Enfin, c'est seulement quand Malfoy débarque et commence à embêter tout le monde. Hermione revient au galop. Elle dit qu'elle l'emmerde. Ron y est encore plus saoulé et à la fois ridicule, le pot. Harry qui dit jamais rien parce que c'est un flot de caractère personnage, tout le monde s'en fout. Et donc, tu vois, mais on est là-dedans. Et enfin, c'est à ce moment-là que je mets mes pieds dans mes pantoufles, quoi.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça fait plaisir. Mais c'est, comme on disait en intro, ça fait plaisir de revenir à Poudlard. Parce que même si on les a vus, Drago, on l'a vu à la Coupe du Monde, mais c'est pas pareil quand même. Là, c'est le retour aux sources, quoi. C'est Poudlard Express, école de magie. Et c'est vrai que c'est la première fois, là, on est au chapitre 11, ils sont toujours pas Poudlard. C'est la première fois que c'est aussi long que ça. Ouais.
Mais c'est pas plus mal aussi, parce que ça permet de découvrir aussi l'extérieur de Poudlard, le petit monde qui gravite, le monde des sorciers qui gravite autour de Poudlard.
Ouais. Si je devais retenir deux personnages, j'en ai...
Mais on t'a pas demandé, Jérém.
Ouais, ok. Alors, on passe à la volière. Non, en vrai, c'est...
En plus, tu vas dire Drago comme nous.
Non, je vais pas dire Drago, non. Alors là, t'essayes de faire la maline en disant... Non, non, moi j'en ai deux. Mais d'ailleurs, t'aurais pu en prendre un des deux. Mais moi, c'est Coxigru et Patanron dans le taxi. Là. Coxigru qui casse la tête à tout le monde. Patanron qui donne des coups de griffe à tout le monde.
Le sang froid du chauffeur est incroyable.
C'est juste le petit medley entre les deux animaux là, qui avec la petite ambiance qui va bien dans le taxi, le petit chaos là dedans. Moi, c'est ce que je retiens.
Ça aurait été une super scène dans le film en vrai.
Ouais. En vrai, ouais.
Ouais.
Un peu clownesque, un peu cartoon. Ça aurait été vraiment trop bien.
Ouais. En plus, ouais, c'est juste vite fait quoi. Quelques plans comme ça, ouais, ça aurait été marrant. Peut-être dans la série justement. Allez, il est temps de citer et d'entendre quelques messages que vous nous avez envoyés. On va donc ouvrir notre volière tout de suite. Et on commence par un premier hibou sonore qui nous a été envoyé par notre auditrice Alice.
Rémi et Marina. Je m'appelle Alice, j'ai 11 ans et je suis en train de relire le chapitre Un épouvantard dans la pandémie. Et j'avais une petite question. Est-ce qu'un épouvantard peut se transformer en épouvantard? Je veux dire par là, est-ce que la plus grande peur de quelqu'un peut être un épouvantard? Et oui, et si oui, en quoi? Je vous adore, merci.
Merci Alice pour ta question. Est-ce qu'un épouvantard peut se transformer en épouvantard? Et si oui, en quoi, du coup? Alors, c'est vrai que ça peut créer un paradoxe, quoi. Ça veut... Je sais
le
pas.
Le truc sans fin.
Ouais, ça se trouve, ça crée court-circuit et ça rend l'épouvantard...
Ah, tu voudrais savoir à quoi ça ressemble un épouvantard, quoi.
Ouais, en fait, c'est un truc qui revient souvent. Il y a Maugrey Folloy qui voit un épouvantard sous sa forme originelle. C'est dans L'Ordre du Phénix. Parce qu'avec son œil magique, en fait, je crois que c'est Molly qui lui demande est-ce que au premier étage, je sais pas, dans l'armoire, est-ce que c'est un épouvantard? Et il regarde vite fait, il fait oui, c'est un épouvantard. Donc du coup, il voit un truc. Et on sait pas ce que c'est. Donc peut-être que.
Est-ce que ça se transforme pas en épouvantard, mais la forme d'épouvantard que tu t'imagines dans ta tête?
Bah, c'est ça le truc. Voilà.
C'est ça. Si tu penses que l'épouvantard, il y a 17 bras, tu vas avoir un truc à 17 bras. C'est fatalement ça. Mais si tu sais, c'est quoi physiquement à quoi vraiment ça ressemble à un épouvantard original, il y a très peu de chances qu'il se transforme autrement qu'un épouvantard original si ça te terrifie. Ouais.
Mais je pense que personne... Enfin, là, Maugrey, je pense que c'est une exception. Donc, en vrai, je pense que si t'as peur des épouvantards, en vrai, je pense que c'est une peur inconsciente, assez profonde en toi. Et justement, je me suis demandé ça parce que comme c'est une peur qui n'est pas incarnée, je pense pas qu'il y a moyen de savoir, à part si t'es Maugrey Folloy, encore une fois, mais il n'y a pas moyen de savoir c'est quoi la forme originelle d'un épouvantard. Du coup, je me demande si l'épouvantard, il prendrait pas un malin plaisir à se rendre invisible ou à faire comprendre qu'il est là par des bruits, des trucs un peu hantés, ou en tout cas à te faire peur, à incarner l'idée que tu te fais d'un épouvantard, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Je crois pas ça si malin, un épouvantard.
Je sais pas.
Un coup de ridiculus et puis il se laisse...
Oui, ça c'est
ce que je veux dire. Non, mais il se laisse subir finalement une ridiculisation. Tu sais, il se fait ridiculiser d'un simple tour, tu vois. Il n'y a pas de, d'autre alternative, quoi. Tu vois, il attend chacun son tour. Tu vois ce que je veux dire?
C'est un peu cartoon. C'est un peu plus cartoon que ça. Ça se trouve, il doit. Attends, moi, j'ai un bug là. Tu as peur de moi, mais attends, du coup, tu as peur.
Un épouvantard, c'est moins un insecte qui déplie ses ailes pour faire une tête monstrueuse, tu vois.
C'est le niveau soft du clown de Stephen King. Enfin, moi, ça me fait penser beaucoup à ça, en fait. De Stephen King. Bon, c'est vachement plus hardcore hein, dans Stephen King, évidemment. Mais.
je suis grave d'accord avec toi.
Parce qu'en plus, à la fin, je sais plus si on découvre la vraie forme de ça, en fait. Je crois pas. On la voit.
Ouais, la vraie forme de ça, ouais, on le voit de Gripsou.
Oui, c'est ça, Gripsou, ouais.
Ouais.
Ah ouais, on la voit.
Et ben, ça se transforme en Gripsou. Voilà, t'as ta réponse, Alice.
Mais si, on la voit, c'est une sorte d'extraterrestre, quadrupède.
Ah, oui. Je me rappelle plus de ça.
Ouais, j'ai un souvenir dans le film, moi. Mais du coup, je sais pas si le film est fidèle au bouquin, mais ouais, c'est une espèce d'extraterrestre, quoi.
Parce que je me souviens, est-ce que je mélange avec Harry Potter, justement, vous me direz, est-ce qu'à la fin, ils arrivent à vaincre le clown, justement, en se moquant de lui? En n'ayant plus peur de lui, et du coup, ça le fait bugger.
Mais clairement, c'est une inspiration de Rowling sur les épouvantards. Ouais. Hein, clairement, c'est. Ouais. Surtout qu'on sait qu'elle a beaucoup lu Stephen King. Donc,
ouais, je pense clairement. Que c'est carrément une inspiration parce que. Ouais, carrément pensé à ça.
Ouais, ça ferait du sens si on fait le clown de ça par rapport aux épouvantards. Si t'as peur des épouvantards, peut-être que, quelque part, ça annule le truc. Enfin, je sais pas. On peut avoir que des théories, mais je sais pas.
Mais c'était une chouette question.
Ouais.
Bravo Alice.
On n'a pas forcément répondu, mais voilà.
Mais en tout cas, on a débattu.
Ouais.
Nous passons au hibou sonore de Pascaline.
Salut la fréquence. Je me suis fait une petite réflexion. On sait que les sorciers ont un premier ministre, comme chez les Moldus. Ils ont un premier en Angleterre, ils ont un premier ministre aussi pour calquer un minimum sur la réalité. On sait que le premier ministre Moldu connaît l'existence des sorciers, mais la grande question, c'est, vu qu'on est en Angleterre, est-ce que la reine à l'époque et le roi aujourd'hui connaît l'existence des Moldus, des sorciers, pardon. Donc voilà, est-ce que la reine ou le roi tout puissant connaissent l'existence des sorciers et est-ce qu'il n'y aurait pas potentiellement des sorciers dans la famille royale? Voilà, sur ce, continuez ce que vous faites, parce que moi, j'ai découvert votre podcast il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai même pas encore fini de tout écouter. J'en suis encore prisonnier d'Azkaban. Mais toujours est-il que vous occupez bien mes journées quand l'entreprise, la ferme qui est juste à côté de chez moi est en travaux. Donc, je mets les écouteurs et je vous écoute. Et du coup, ça m'évite les désagréments des travaux. Donc, voilà. Donc, merci pour tout ce que vous faites. Et puis, continuez bien. Salut!
Merci Pascaline pour ton hibou.
Attends, je fais des bruits de tracteur là.
Je me rappelle, on avait déjà eu cette question il y a quelques podcasts de ça, dans les précédentes saisons. Et en fait, on était venu à la conclusion que la reine, enfin les précédentes reines et rois, n'étaient pas au courant, c'était seulement le premier ministre. Il y a la reine Victoria qui avait été amie avec une sorcière, mais elle n'a jamais été au courant que c'était une sorcière. Mais on a vu... Ça marche plus aujourd'hui. On avait eu la théorie selon laquelle la reine Elisabeth avait la pierre philosophale et qu'elle était au courant. Mais du coup, la pauvre Elisabeth, ça marche plus aujourd'hui.
Non, mais je pense surtout que c'était une sorcière.
C'était une Elisabeth.
Un spin-off où un héritier de la couronne est un sorcier et débarque à Poudlard, c'est incroyable.
Ah ouais.
C'est pas une des sagas que t'avais commencé à écrire, du coup, Vincent, qui était sous le menton.
Ouais, c'est... Je suis là, je suis à 96 chapitres. Ah ouais. Vraiment très prolifique, le gars.
Mais.
En vrai, c'est stylé.
Ah, j'ai pas envie de voir Charles III et Camilla dans le monde des sorciers, c'est bon.
Non, mais ça peut être intéressant parce que comment justifier finalement? Parce que autant te dire que moi, je suis sorcier. Personne, tout le monde s'en fout. Personne ne le voit quand je m'en vais à Poudlard, tu sais. Mais un héritier de la couronne, comment tu caches finalement son absence? Comment tu vois, avec les paparazzi, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être ultra intéressant.
Peut-être que Diana, elle n'est pas morte. Peut-être que c'est une sorcière, en fait. Elle est toujours en vie. Elle vit sa meilleure vie de sorcière.
Tu vois le professeur Trelawney?
Franchement,
c'est Diana qui a mal tourné.
Putain, j'ai craché sur le micro.
Elle a craché sur les auditeurs. On crache sur les auditeurs avec notre théorie fumeuse sur la famille royale. Ouais. Mais non, on l'évoque parfois parce que c'est vrai qu'il y a tout un truc avec le premier ministre Moldu. Ça, c'est à partir du prince de Sang-Mêlé où J.K. Rowling mêle un peu la politique. En tout cas, voilà, le poste de premier ministre, elle l'inclut dans le monde de la magie. Il y a une espèce de complicité comme ça qui se met en place, mais elle n'évoque jamais la famille royale. Et je sais pas si c'est par pudeur ou.
Ah non, mais c'est parce qu'aussi, c'est un peu de la para.
Mmh.
C'est un peu de la para, la famille. C'est vraiment le premier ministre qui prend les décisions, je pense.
Oui.
En Angleterre.
Oui. Mais, ouais. C'est pour ça, je pense qu'il valait mieux ne pas l'évoquer, parce que je pense qu'elle se voyait pas non plus. Parce que c'est trop sexy, je trouve, l'idée de, des membres de la famille royale qui sont des sorciers et tout. C'est sexy quand même.
Je pense que tu peux pas dire c'est la reine d'Angleterre est au courant et tu nous fais un chapitre.
Et puis surtout tu la nommes direct.
Alors... Tu trouves ça sexy que Camilla et Charles soient...
Pardon. Non, mais c'est surtout, tu vois, dans le chapitre du Premier ministre, le Premier ministre, le nom n'est pas nommé. Et je pense que c'est OK parce que, elle met en scène le rôle de Premier ministre, mais elle vient pas citer le Premier ministre en question, alors qu'on pourrait le faire parce que c'est daté et tout. Sauf que la famille royale, ça marcherait pas. Tu peux pas parler du roi ou de la reine d'Angleterre comme un poste sans le nommer. En fait, la reine d'Angleterre, c'est Elisabeth, tu vois. C'est évident, quoi. Donc, je pense qu'il valait mieux ne pas l'évoquer du tout. C'est ce qu'elle a fait. Nous passons au prochain hibou sonore qui nous a été envoyé par Audrey.
Bonjour la fréquence. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison. J'avais une petite interrogation aujourd'hui. J'aurais voulu savoir si on avait des informations officielles sur l'état de santé de Dudley dans le tome 7, dans les reliques de la mort. Parce que je suis actuellement en train d'écouter le livre audio, donc le tome 7, que je ne connais pas, c'est une découverte donc pour moi. Et l'interprétation de Dominique Collignon-Morin laisse penser que Dudley, enfin à mon avis, hein, j'ai le sentiment que Dudley, dans l'interprétation, aurait gardé des séquelles de l'attaque qu'il vit avec Harry contre les Détraqueurs. Dans le film, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait le choix de cette interprétation-là. Dudley n'a pas l'air d'avoir gardé de séquelles. Et je vois pas d'informations dans le livre qui laisse penser qu'il ait gardé des séquelles. Voilà, donc je voulais votre avis sur la question. J'ai jamais eu accès au site Pottermore, donc si des fois vous avez des informations officielles qui m'auraient échappé, j'aimerais bien votre avis sur la question. Merci beaucoup, c'était Audrey. Je vous fais des gros bisous, merci pour votre podcast et à très bientôt pour la suite des aventures d'Harry.
Merci Audrey pour ton hibou. Moi honnêtement, je pense pas du tout que Dudley, en vrai, il ait des séquelles qui pourraient le diminuer dans les reliques de la mort. Je pense qu'il s'en est remis depuis le temps. Et en vrai, c'est surtout l'interprétation du narrateur, de Dominique Collignon-Morin, qui le rend un peu débile. J'ai réécouté ce passage et c'est vrai que c'est son interprétation, en fait. Mais c'est justement, on en parlait, mais je crois que c'est en off. Je sais plus si c'est dans le podcast aussi, on parlait en off avec Vincent, des livres audio. C'est un truc où, ouais, que ce soit Bernard Giraudot pour les premiers ou Dominique Collignon-Morin ensuite qui a pris le relais. Il y a beaucoup de personnages qui sont rendus un peu débiles avec la surinterprétation du livre audio. Je sais pas ce que vous en pensez, mais d'ailleurs moi je penserais vraiment le contraire. Je trouve que c'est le contraire qui se passe et c'est ça un peu le problème peut-être avec l'interprétation de Dominique Collignon-Morin, parce que au contraire je pense que Dudley en est ressorti grandi de cette expérience avec les Détraqueurs. On ne sait pas trop ce qu'il a ressenti au fond de lui pendant l'attaque. Je ne sais pas ce qu'il a vu comme horreur, mais en tout cas, il a pris, je pense, en pleine figure les dangers qui entouraient son cousin et qui l'entourent toujours d'ailleurs au début des Reliques de la Mort. Et surtout, il lui en est reconnaissant de lui avoir sauvé la vie. Il y a un point de bascule à ce moment-là, en fait, avec le rapport qu'il a avec son cousin, avec Harry. Et dans le tome 7, en fait, on voit bien que Dudley, il est plus mature, il a plus de recul sur Harry, il est même inquiet d'être séparé de lui, en fait. Il comprend qu'il a un lien d'affection pour lui, en fait. Et en ce sens, il est beaucoup plus humain que ses parents dans cette scène, la dernière fois qu'on le voit.
C'est du film, ouais.
Ouais, ça, c'est coupé du film. Alors, c'est une scène coupée. D'ailleurs, ça a été tourné, on peut la retrouver.
Ouais. Elle est stylée. Même Tante Pétunia quand même qui se montre Vernon, non, il est toujours en plein de pudeur et de je dirais pas qu'il regrette, mais bon, il se tait, quoi.
Ouais, avec, et je crois qu'avec Pétunia, c'est pas dans le film non plus, je crois que c'est une scène coupée. Hein, où...
Pétunia, dans le film, non, elle est pas. C'est vraiment dans le bouquin, là, pour le coup, ouais. Pétunia, elle remonte des remords. Quoi.
Parce qu'il y a une scène coupée, ouais, je crois que c'est pas dans le film, hein, mais ouais, je suis quasiment sûr que c'est coupé, où Pétunia, là, ils ont quand même tourné une scène où elle dit. Tu sais, quand t'as perdu tes parents, moi j'ai perdu une sœur ce jour-là. Enfin, elle a une phrase comme ça qui, mais c'est ouais. Un peu comme dans le livre où elle arrive pas à exprimer. En fait, il y a un truc où dans le livre, je crois qu'elle se retourne vers Harry, elle s'apprête à lui dire quelque chose et finalement, elle y arrive pas et elle dit rien et elle part. Alors que Dudley, ouais. Il arrive à poser des mots. Dudley, même avant ça, il lui a posé une petite tasse de thé devant sa porte. Il est triste, il a de l'affection pour Harry, il veut pas le quitter et c'est là où on dit ok, il est devenu meilleur que ses parents et c'est plutôt bon signe.
Et finalement, on saura, mais je sais plus. Je crois que c'est avec l'enfant maudit. On sait qu'il a gardé contact avec Dudley.
Ouais.
Sommairement, mais ils ont gardé contact quand même.
Ouais, ouais. Je déteste l'enfant. T'as lu l'enfant maudit, Vincent, ou pas?
Non, pas encore. C'est le seul.
Ne le lis pas.
Si t'as l'occasion, va voir la pièce. On l'a pas vu, mais apparemment c'est génial. Mais lis pas le texte.
Après, ça reste une pièce de théâtre.
Après, moi, j'ai lu des bouquins fanfiction. Ouais, vraiment très cool, tu vois. Alors, en fait, ouais, j'aime beaucoup les 7 tomes et j'ai pas envie de, voilà, j'ai pas envie de me chagriner avec du tiers. J'ai l'impression. Du tiers, et en plus, là, pour le coup, on m'a dit que c'était pas ouf.
Non, c'est pas fou.
En fait, ouais, d'ailleurs...
Il vaut mieux aller voir la pièce de théâtre, ouais. En fait.
D'ailleurs, le truc avec Dudley, c'est peut-être le seul... C'est un des rares trucs que j'aime bien. C'est qu'en fait, on apprend dans la pièce que Dudley, il a gardé contact avec Harry, et surtout qu'il a gardé en souvenir la couverture dans laquelle Dumbledore l'a posé quand il était bébé. Et que Dudley a cette couverture-là. Ça peut être un peu creepy quand j'y pense.
Ouais, mais... ouais. Mais c'est un peu out of character quand même.
Ouais.
Que Dudley a vraiment de la sympathie pour Harry et du regret pour le comportement qu'il a eu, ouais.
Ouais.
Même super ouais, trop cool.
Non, mais surtout, qu'est-ce qu'il fait avec cette couverture?
Mais qu'est-ce qu'il fout avec une couverture de nourrisson?
C'est bizarre. Non, mais c'est en mode affectueux dans la pièce.
Ouais, mais même affectueux, c'est chelou, quoi. Vraiment.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Nous passons au hibou écrit de Liman. Bonjour, je suis en train d'écouter votre podcast sur le chapitre 13 du prisonnier d'Azkaban et vous avez eu un petit débat sur la relation entre les sorciers et la technologie. Je me suis alors demandé si vous pensiez que les sorciers font du cinéma ou s'ils regardent des films. Voilà, je me posais la question parce que je me disais que quand même ils ne peuvent pas se priver de ça. Bref, voilà, j'espère que vous pouvez me répondre. J'adore votre podcast, continuez ainsi. Merci pour ta question, Liman, et j'avoue ne pas avoir de réponse. C'est
le
vrai que
cinéma.
Bah ouais, est-ce que je les imagine un peu artistes, arty, les sorciers? Pas tellement. Je les imagine pas faire du cinéma, en fait. Je sais pas vous, mais ouais, j'imagine pas un cinéma sorcier. J'imagine ça, Vincent?
Ah ouais. Moi, je pense qu'à partir du moment où ils font du sport, tu vois, non mais ils font du sport, ils font de la littérature. Pourquoi pas du cinéma?
Ouais, c'est vrai.
En plus, magiquement, ça peut être intéressant. C'est sûr que la 3D, elle est ouf chez eux.
Ouais.
Je pense que si c'est pas du cinéma, c'est probablement un théâtre, mais théâtre x5 où il y a des effets spéciaux. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, j'imagine plutôt du théâtre que du cinéma. Ouais. Parce que je les imagine pas avoir des sortes de rétroprojecteurs ou... un semblant de télé ou chez eux, en fait.
C'est ça, c'est qu'ils ont un rapport à l'image animée qui est complètement différent d'une autre.
Ouais, avec des écrans, en fait.
Toutes les photos sont animées. Je dirais que non, tu vois. Par contre, je pense... Je vois bien Dumbledore s'intéresser aux arts moldus, tu vois, et genre connaître plein de films, aller au cinéma et tout. Je pense qu'il y a des sorciers un peu barrés qui regardent le cinéma moldu, parce que franchement, notre cinéma, il est stylé, quand même. Il y a quand même... voilà, tu vois. Mais les sorciers en eux-mêmes créent des films. Bizarrement, j'arrive pas à l'imaginer. Dans un monde où toutes les images bougent, j'arrive pas à imaginer ça. Je sais pas.
L'origine du cinéma moldu, c'est pas finalement créer du fantastique. Tu vois, et est-ce que le fantastique, ils l'ont pas, les sorciers? Tu vois ce que je veux dire? Voir un train, tu sais, arriver d'une toile à nous, est-ce que ça ferait peur à un sorcier alors qu'il peut le reproduire probablement magiquement?
Bah ouais.
Donc peut-être, mais je pense qu'ils ont un théâtre très très élaboré.
Ouais.
Quasi cinématographique, tu vois. Mais oui, peut-être que le cinéma, en effet. C'est pas très utile, quoi. Parce que finalement, voir des explosions et des gens qui volent, bah, ils le voient.
C'est ça, peut-être que Griffiths ou Chaplin, en fait, ils sont moqués par les sorciers. Ils sont là, oh, les losers.
Du coup, je me suis dit, est-ce qu'ils ont quand même un minimum de ce qui se rapproche de la télé, par exemple? Parce que, par exemple, ils connaissent Gilderoy Lockhart. Est-ce que Gilderoy Lockhart, il apparaît dans des émissions ou c'est uniquement radiophonique?
Est-ce qu'il y a TPMP sorcier? Est-ce qu'il y a un Hanouna sorcier? C'est ça que tu te poses comme question?
Oh, mes petits chéris, mes petits chéris. Oh, une nouvelle imitation.
Est-ce qu'il y a un Baba sorcier?
En vrai, ils en font même pas mention. Et que ça soit, finalement, la télé, peu importe. Ben, tu sais, si tu prends... pourquoi le terrier n'aurait pas de télé alors famille pauvre, d'accord, alors si c'est famille pauvre, très bien, mais pourquoi pas Malfoy? Malfoy n'aurait pas une télé, tu sais, il manque jamais une occasion de s'en vanter, alors ça me semble de se vanter,
ça c'est vrai, il n'y a pas.
Et puis on parle encore de des gens qui se téléphonent et qui se Skype à travers la tête de leur dans une télé.
Donc, l'idée du théâtre, elle me plaît bien.
Elle colle, ouais.
Un théâtre amélioré avec la magie, ça va être méga stylé. Hein. Mais j'arrive pas à dissocier. Ouais, pour moi, le cinéma, c'est un art moldu, tu vois. Si le monde de la magie existe, le cinéma, c'est un art moldu.
Bah ouais, ouais, je suis d'accord.
Ouais, ouais.
D'accord.
C'est terminé pour cette volière. Si vous nous avez contacté il y a un petit bout de temps et que votre message n'est pas passé, n'hésitez pas à nous en envoyer un autre, ça sera peut-être pour celui-ci. Ça se passe en message privé sur nos réseaux Instagram, Twitter, enfin il faut dire X maintenant, il paraît X, et Facebook, ou directement par email moldu à l'adresse fréquence934@gmail.com.
On a reçu également quelques demandes pour nous envoyer des courriers par la poste. Eh bien, c'est possible depuis peu. L'adresse postale est disponible en description si ça vous intéresse. On a trop hâte de recevoir vos petits courriers. Sachez aussi qu'on lit parfois des hiboux pour la volière, comme sur cet épisode avec Liman. Donc, c'est pas possible pour vous de vous enregistrer. C'est aussi une option d'envoyer tout simplement un hibou écrit classique.
Si vous nous envoyez un message écrit, soit on vous répond directement, soit on vous dit bah ça sera peut-être pour la volière. Voilà. Notre podcast est disponible sur la plupart des plateformes audio. Vous êtes une majorité à nous écouter depuis Spotify. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles là-bas pour le référencement. Référencement, j'ai pris la voix de Draco Malfoy. Ça fait toujours plaisir, hein, pour le référencement.
Hein,
des étoiles, faites pas les malins. Et vous pouvez le faire aussi sur les autres applis, évidemment. D'ailleurs, Apple Podcast et Podcast Addict permettent même de laisser un commentaire. Merci à Charlie et Nanyori qui l'ont fait récemment. Ça nous fait toujours chaud au cœur de lire vos retours.
Il y a aussi l'option YouTube pour réagir à l'émission et notre serveur Discord, bien entendu. C'est l'endroit idéal pour échanger avec les autres auditeurs et parler d'Harry Potter et autres. On le rappelle, tout est en description de l'épisode si jamais vous avez besoin de porte-loin pour vous guider.
On a récemment ouvert une page Patreon, comme vous le savez, pour nous soutenir et accéder à des contenus exclusifs. Pour 4 galions par mois, vous pouvez avoir accès à du contenu chaque semaine avec la sortie des épisodes en avant-première et ensuite l'accès aux after-shows qu'on enregistre à chaque fin de podcast avec nos invités quand on en a. On va d'ailleurs en enregistrer un juste après avec Vincent. On va parler d'humour dans Harry Potter et du sketch qu'il a fait, etc. Donc ça serait quand même dommage de rater ce bon moment de poilade qu'on va passer ensemble.
D'accord.
On va bientôt utiliser aussi les sondages lorsqu'on aura des questions à poser aux auditeurs avant d'enregistrer en fonction des thèmes abordés. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, c'est un soutien direct pour notre projet évidemment, et un grand merci aux 70 contributeurs qui nous accompagnent jusqu'à présent.
Bon Vincent, c'est la fin de la partie podcast, de la partie chapitre. J'espère que ça t'a plu, t'as passé un bon moment.
Franchement, c'était trop bien. Me replonger là-dedans et tout. Et vous êtes très sympathique. Non, franchement, c'était bien. J'aime bien parler.
Là, on était dans
le large. On va continuer, alors.
Ben ouais.
Trop bien.
Et là, on va pouvoir encore plus, divaguer sur les thèmes divaguer, qu'on veut, là.
Ouais.
Ça va être
ouais, ouais. Bon, on va rester, on est dans notre compartiment du Polar Express, on va y rester un petit peu.
En plus, il fait chaud là dans le compartiment du Polar Express.
Il fait un peu chaud. Il fait un peu chaud dans notre studio.
Et avant de se quitter, on n'oublie pas de citer les irréductibles tipeurs qui nous soutiennent eux aussi depuis là-bas. Merci à Corsetilou, Mogiwara, Julien Bédé, Lucie, Ini, Chloé, Wookie Pimps. J'ai dit Pookie, je crois Pookie Pimps.
Virginie, Camille, Bispac, Louison, Kividuck, Aurélien, Cali, Miss Bookin et Pamela. Merci à vous les amis, merci aux magnifiques Patreons, à ceux qui commentent ou les auditeurs de l'ombre, on vous aime toutes et tous. On se retrouve soit en after show Patreon, soit pour le prochain chapitre qui sera...
Le chapitre 12 de la Coupe du Feu, le tournoi des trois sorciers. À bientôt.
Salut.
Salut.